Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Le dragon du barrage de Serpençon. Quand le niveau de l'eau est bas en hiver et au printemps, le vent qui souffle sur le lac soulève année après année des tempêtes de poussière sur toute la vallée, d'embrun jusqu'aux ors. Et les gens disent « c'est le Mistral qui souffle ». Quelquefois, à la sortie du barrage, l'eau gicle à la verticale en un jet formidable, monstrueux, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les gens viennent filmer et prendre des photos et ils disent « oh, c'est EDF qui a ouvert les vannes ». Mais tout ça, ce n'est pas vrai. La vérité, moi, je vais vous la dire. Un jour de 1960, je crois, un couple de touristes arrive sur la belle nationale 94, toute neuve, qui longe le lac de Serpençon. Ils arrêtent leur dauphine rouge au bord de la route, à l'ombre, et leur petit garçon se précipite vers le lac en tenant dans ses bras un bocal contenant une créature étrange. Une tête d'hippocampe, un corps et des pattes de grenouille, une longue queue de dinosaure. À peine le petit garçon s'approche-t-il de l'eau pour remplir son bocal, que la créature saute par-dessus bord dans les eaux peu profondes du lac. Et elle se met à nager, à s'ébattre, et elle grandit d'un coup de 50 cm. Au moment de partir, le petit garçon la rappelle. « Allons, allons, viens, tu sais bien que nous avons loué en Italie une villa avec une piscine, rien que pour toi. » La créature revient vers son ami. Mais le bocal est devenu trop petit. Et elle a beau s'enrouler, se contorsionner, retenir sa respiration. Rien n'y fait, elle ne parvient pas à rentrer tout entière dans le bocal. Alors il faut bien prendre une décision. Et le petit garçon repart vers l'Italie avec ses parents, après avoir promis à son ami qu'il lui rapporterait un bocal à sa taille après les vacances. Cet animal mystérieux est en réalité un dragon d'eau douce, mais un bébé dragon. Et un bébé dragon, ça n'a pas beaucoup de mémoire. Et il oublie de venir au rendez-vous de son ami après les vacances. Mais pour le moment, il part jouer et batifoler dans le lac. Il en fait le tour. Il le trouve qu'il est beau et profond, l'eau est bien fraîche, bien propre. Un lac idéal pour un bébé dragon. Il trouve même un endroit pour s'installer, derrière le barrage, à l'endroit le plus profond. Et ce bébé dragon grandit, d'un mètre par an. Au bout de 10 ans, 10 mètres. 20 ans, 20 mètres. 50 ans. Mais nous n'en sommes pas encore là. Un soir d'hiver, qu'il va se promener de l'autre côté du lac, vers Embrun, il voit la lune ronde et pleine sur le velours noir du ciel. Et dans le calme de la nuit, il aperçoit par une fenêtre entrouverte un petit garçon qui dort sous sa couette. Et voilà que le dragon décide d'offrir un présent à l'enfant. Et il décide d'attraper la lune pour se faire un ami. Il se hisse sur le pont de Savine pour se rapprocher, mais là, il voit deux lunes. Une en haut sur le velours noir du ciel, et l'autre en bas sur le velours noir de l'eau. Il est perplexe, il réfléchit un moment, et puis il se décide. Il saute pour attraper celle qui est dans l'eau. Il faut vous dire qu'un dragon, quand ça saute dans l'eau, ce n'est pas comme les humains. Ça fait un gros plouf et des grosses vagues. Des vagues énormes. Mais la lune se brise en mille morceaux dans sa gueule et retombe dans l'eau. Alors il se dit, il doit recommencer. Et il recommence. Une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, il mord l'eau, mais il ne réussit pas à attraper la lune. Alors il rentre chez lui, il va se reposer. Mais le lendemain, les bateaux du port de Savines sont retrouvés empilés, sans dessus-dessous, sur la berge du lac. Et les hommes restent perplexes. De temps en temps, le dragon sort de l'eau et s'installe au soleil, adossé au barrage, avec les pieds dans l'eau. Ce jour-là, il s'ennuie un peu et il soupire. Mais un dragon, quand ça soupire fort et ça fait des vagues. Il trouve que c'est joli, des vagues. Alors il souffle sur l'eau un peu plus fort et les vagues se creusent. Et il souffle encore plus fort. Et les vagues ont de petites crêtes blanches. C'est très joli. Alors il souffle vraiment très fort. Il faut vous dire qu'un dragon, quand ça souffle, ça n'est pas comme les humains. Ça vous fait une tempête qui dure pendant des jours et des nuits. Et de l'autre côté du lac, là où l'eau s'est retirée, ça fait de la fumée. C'est amusant. Alors il souffle encore plus fort. Et là, ça fait un gros nuage de poussière blanche qui s'épanouit au-dessus de la plaine et au-dessus de la vallée pendant plusieurs jours. Et elle monte jusqu'aux ors. Et les hommes en parlent, les verts et les rouges, ceux de droite et ceux de gauche. En tout cas, lui, il va aller se reposer maintenant. Mais il recommencera, c'est promis. Il a trouvé un emplacement de choix pour se reposer. Sur la paroi du rocher, juste au-dessus de l'eau, à côté du barrage, les hommes ont agencé comme une petite plateforme, juste pour lui, équipée d'un tube à l'arrière pour mettre sa queue, un gros tube pour mettre une queue de dragon. Ils appellent ça un évacuateur de crue. Lui, il appelle sa chaise longue. Un jour, il s'y installe, avec les pieds dans l'eau. Oh, ça doit être au mois de mai, juin, par là. L'air est doux, la vallée est toute verte, et les montagnes encore blanches. Depuis plusieurs jours, il tombe une douce et tiède pluie printanière. Un petit vent chaud souffle du sud, et bientôt les montagnes changent de couleur. Elles deviennent d'un blanc ocre, comme si on avait saupoudré du sable dessus. Elles sont toutes sales. Le niveau de l'eau monte sur ses pattes, monte, monte, et bientôt il a le derrière dans l'eau. Il décide de changer de place. Et c'est en quittant sa chaise longue qu'il s'aperçoit qu'il a perdu l'aileron du bout de sa queue. Pensez, un aileron de dragon, c'est important. Alors il le cherche. Il doit être coincé dans le tube de sa chaise longue. Il regarde, mais c'est tout noir là-dedans. Il ne voit rien. Il met sa patte. Mais elle est trop courte. Il décide alors de souffler dans le tube. Si son aileron est dedans, il sortira forcément de l'autre côté du barrage. Alors il prend un souffle énorme. Il s'accroche de chaque côté de la chaise longue. Les montants s'écartent. L'eau s'engouffre dans le tube. Et il souffle très fort. Il faut vous dire qu'un dragon, quand ça souffle, ça n'est pas comme les humains. Ça dure des jours et des nuits. Et de l'autre côté du barrage, l'eau gicle. Elle monte à la verticale dans un jet puissant. Et ça fait une crue à l'aval. Ça dévaste tout. Et les hommes en parlent, les rouges, les verts, ceux de droite et ceux de gauche, ceux d'en dessus et ceux d'en dessous, ceux qui parlent fort et ceux qui chuchotent. Oui, mais le dragon, lui, n'a pas retrouvé son aileron. Et qui se préoccupe de lui? Alors, il va se reposer, mais c'est sûr. Il faudra qu'il cherche à nouveau dans le tube, parce qu'un aileron de dragon, c'est important. C'est un dragon gentil. Les hommes pestent à cause de ses blagues. Mais quoi, et il faut bien que tout le monde vive. Ceux d'en dessus, ceux d'en dessous, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, ceux qui parlent fort et ceux qui chuchotent.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je me suis endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je me suis endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Cette année-là, sur les grandes plaines d'Amérique du Nord, la pluie avait commencé à tomber dès la fin de la lune des feuilles mortes, le début du mois d'octobre. Il tombait, il pleuvait tous les jours, des trombes d'eau. Puis, vers la fin de la lune de l'esprit de la tempête, au mois de novembre, la neige s'était mise à tomber. La neige tombait profonde et épaisse. Pour la lune du grand sommeil, à la fin de cette lune, les anciens et les jeunes de la tribu ont décidé d'aller remonter les tipis en haut d'une colline. Mais rien n'y a fait. La pluie s'est remise à tomber. L'eau des ruisseaux, des rivières, des torrents, des lacs et des étangs montait sans cesse et sans cesse. Les hommes avaient beau calfeutrer le bas de leur tipi avec des écorces de peupliers et de cèdres, l'eau passait partout. Puis, les bébés se sont mis à mourir. Les vieux sont partis petit à petit à leur tour. Après, ça a été les adultes qui ont été saisis d'une mauvaise toux. Tous moururent, sauf une jeune femme, Chinook. Ce matin-là, Chinook se réveille sur un rocher tout en haut d'une colline. Elle est comme sur une île. La crue a tout emporté. Alors, elle regarde autour d'elle et elle est saisie d'un désespoir profond. Et elle retombe dans un sommeil qui ressemble presque à un évanouissement. Une heure plus tard, elle se réveille de nouveau. Elle entend un souffle d'air et un battement d'ailes. Alors elle se retourne et elle aperçoit un grand aigle noir. Son premier geste est un geste de recul, car elle craint les serres de ce rapace. Mais elle se sent tout de suite en confiance. Il a un regard doux et bienveillant. « Tu es seul ?»«
Oui, je suis seul. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs sont mortes. »«
Tu es triste ?» Je n'ai plus que ma tristesse comme seule compagne. Tous les miens sont morts et tous les membres de la tribu aussi. Alors je resterai avec toi. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Rien. Je vis avec ma tristesse et je mourrai avec ma tristesse et ma solitude. Mais non, dit l'aigle, nous sommes là, nous autres. Les rampants, les quatre pattes, les volants. Et quant à moi, je ne t'oublierai pas et je ne te laisserai jamais seul. Alors l'aigle déploie ses ailes et monte haut dans le ciel. Mais où vas-tu ? Te chercher de la nourriture. Il revient avec un grand poisson. Mais je ne peux pas le manger comme ça, tout cru. Je dois faire du feu.
Qu'est-ce qu'il te faut pour faire du feu ? Du bois sec. Alors l'aigle fait plusieurs va-et-vient vers la forêt la plus proche et il lui ramène du bois sec, de chêne et de pin. Chinook a conservé un lacet sur ses mocassins. Avec ce lacet et un bout de branche, elle fait un lance-feu et bientôt le feu crépite. Vous autres, les deux jambes, vous avez un grand pouvoir. Vous savez maîtriser le feu. Mais nous autres, quatre pattes et volants, nous n'en avons pas besoin. C'est vrai, un bon feu, c'est comme un bon ami. Il nous permet de cuire notre nourriture. Il tient aussi à distance les pumas et les grizzlies. Et puis, le soir, au coin du feu, on se réchauffe et on peut rêver et chanter. Tous les deux vont dormir. Le lendemain matin, lorsque Chinook se réveille, son ami l'aigle n'est pas là. Alors, elle se dit « Mais j'ai dû rêver !» Mais non, il y a bien à côté d'elle les restes du poisson et les restes du feu. Elle regarde tout autour d'elle, le niveau de l'eau a baissé, mais elle reste triste. C'est une belle jeune fille, elle était courtisée par de nombreux jeunes gens, et elle est à un âge où l'on espère se marier et puis mener une vie simple et heureuse. Alors elle regarde le ciel, puis elle aperçoit un tout petit point noir qui grossit, grossit, grossit. C'est son ami, l'aigle, qui descend. Alors quand il est à portée de voix, elle lui dit « J'aimerais voler comme toi. Accroche-toi à mes pattes, dit-il. » Chinook s'accroche aux pattes de l'aigle, l'aigle déploie ses ailes et la monte haut dans le ciel. Alors elle découvre le monde comme elle ne l'a jamais vu. Les rochers, les arbres, les animaux deviennent tout petits, mais la terre, elle, grandit, grandit. Tout l'émerveille. Un peu plus tard, l'aigle la redescend doucement en haut de la colline. Puis il repart. « Tu t'en vas ? Oui, mais je reviendrai. Je ne t'oublierai pas. » Et l'aigle monte haut dans le ciel et il s'adresse au grand esprit qu'il appelle grand-père. « Grand-père, pourquoi l'as-tu abandonné ?»« Mais je ne l'ai pas abandonné, puisque je t'ai envoyé à ses côtés. Oui, certes, chaque jour je lui amène de quoi manger, de quoi faire du feu. Mais il lui manque la compagnie de ses semblables. » « Il y a un moyen. »« Je ne comprends pas, grand-père. »« Tu es courageux, généreux. »« Tu mérites ta place dans le cercle de la vie. »« Mais si tu veux vraiment l'aider, tu devras y renoncer. »« Qu'est-ce que cela veut dire, grand-père ?»« Eh bien voilà, tu peux devenir un deux-jambes. »« Mais alors ?» Plus jamais tu ne pourras voler dans le ciel. La décision t'appartient. Soit tu restes tel que tu es, soit tu deviens deux jambes, et à vous deux, vous repeuplerez la terre. L'aigle redescend doucement et il retrouve son ami. Mais ce soir-là, Chinook trouve qu'il a beaucoup d'inquiétude et d'angoisse dans son regard. Le lendemain, l'aigle part à nouveau. Il dit à son ami qu'il reviendra vite. Et cette fois-là, il monte plus haut et il va plus loin qu'il n'est jamais allé. Il découvre le monde comme il ne l'a jamais vu. Il ne l'oubliera pas. Puis, il remonte vers le grand esprit. « Ah !» dit le grand esprit, dit grand-père. « Je vois que tu as pris ta décision. Sache que c'est un chemin sans retour. Oui, nous autres, les bisons, les loups, les aigles, nous sommes nombreux. Elle, elle est la dernière de son espèce. Et si elle disparaissait, le monde ne s'en remettrait pas, sûrement. Bien, sache que les hommes garderont toujours ton souvenir. Ils t'honoreront. C'est l'automne. Chinook marche en forêt. Elle ramasse des baies et aussi du bois mort pour se chauffer l'hiver. De temps en temps, elle regarde le ciel, espérant toujours voir son ami l'aigle revenir. Elle continue son chemin et d'un seul coup, elle entend une voix derrière elle. « Tu attends quelqu'un ?» Elle se retourne. « Personne. »« Je suis là. » Alors elle voit sortir de derrière un grand rocher un beau jeune homme. « Mais je croyais pourtant être la seule survivante. Mais d'où viens-tu ?»« Du ciel. » Alors incrédule, elle le regarde, s'interroge. « Te souviens-tu, lui dit-il, du jour où je t'ai emmené dans le ciel ?»« Impossible. C'était toi !» Alors elle se précipite dans ses bras. Et tous les deux ont vécu des jours heureux, longtemps, et elle dit toujours que lorsqu'elle s'approche de son compagnon, elle a l'impression de s'élever dans les airs. Voilà pourquoi nous autres, les Sioux, encore aujourd'hui, nous considérons les plumes d'aigle comme sacrées. Et chaque fois qu'un Lakota aperçoit un aigle en train de planer dans le ciel, tout à fait cessante, il contemple cet être-là et le remercie pour sa compassion.
La canne de mon grand-père. Récit de vie. Mon grand-père, Louis-François Édouard, habitait avec ma grand-mère, Marie-Rosalie Hermans, aux Abers du Prat, au-dessus de Saint-Hippolyte-le-Mariol. C'est un petit village, comme tous les villages, au bord du Mariol, une place avec la mairie, le café pour les hommes, la fontaine pour les bêtes, le monument aux morts et l'église pour les femmes et les vivants. Quand vous êtes le dos à l'église, levez les yeux. À 300-400 mètres environ au-dessus de la vallée, de l'autre côté du ruisseau, au milieu des bois, vous verrez les Abers du Prat, 4 maisons habitées autrefois. Pour y aller, une route longue pour les charrettes et les voitures. Dame, il faut monter doucement. Et un grappillon, un sentier pour ceux qui vont à pied. Il part en face du pont, franchit le fossé sur une belle dalle de pierre plate et grimpe dans la forêt par des lacets le long du torrent. Mon grand-père et ma grand-mère vieillissaient doucement. Les 3 enfants étaient partis. Eux, ils restaient là, avec une vache, un cochon, quelques poules et des lapins, un solarette, c'est-à-dire un jardin bien ensoleillé. C'était leur vie. Tous les jeudis, mon grand-père descendait au café pour y retrouver sa classe, c'est-à-dire les hommes du même âge que lui appelés au régiment en même temps. Et là, il faisait une partie de cartes. Pour y aller, bien sûr, il prenait le sentier. Et ma grand-mère marronnait. « C'est pas possible, à 70 ans passés, tu vas te casser le cou !» Lui, il souriait. Ce sentier, il l'avait parcouru plus de 5 000 fois. Je n'exagère pas, ou juste un petit peu. Comptez avec moi. L'école d'abord. De 6 ans à 12 ans, matin et soir. À midi, il mangeait chez sa tante Eulalie. 150 jours d'école pendant 6 ans, aller et retour, ça fait 1 800 trajets. La messe et le catéchisme ensuite, 52 dimanches, plus l'Ascension, la Toussaint, le 15 août, la fête de Saint-Hippolyte, et je dois en oublier. Allez, 60 fois par an, le catéchisme le jeudi, 30 fois, et pendant 6 ans au moins, cela fait 1080 trajets. 1800 plus 1080, ça fait 2880. Ensuite, la messe après 15 ans, où il allait bien, oh, 10 ou 20 fois par an. Noël, Pâques, les grandes fêtes, les baptêmes, les mariages, les enterrements, les communions. Pendant 55 ans, cela fait encore 2200 trajets. Nous sommes à 2280 plus 2200 égale 4480. Ajoutez les bals, les fêtes, les foires, les vogues. C'est là qu'il a rencontré Rosalie. Elle est devenue sa promise. Il a eu le droit d'aller chez elle, lui faire la cour, et ça en fait des trajets. Puis elle est venue à la ferme. Il allait la chercher, elle et tante Philomène, son chaperon, et il l'a raccompagnée. 5000, c'est peut-être pas assez. Alors vous pensez s'il le connaissait par cœur, ce sentier? Il le descendait et le remontait en sentant toutes les odeurs, en tapant avec sa canne ferrée sur toutes les racines, sur tous les cailloux, dans tous les tournants, de nuit, de jour, avec le brouillard, dans la neige, sous la pluie. Ce soir-là, c'était un jeudi avant le 11 novembre. Mon grand-père allait descendre. Pour un ancien combattant qui avait fait la guerre de 14, se réunir, c'était sacré. Dehors, un brouillard à couper au couteau noyait le paysage. Ma grand-mère ronchonnait, pestait, grognait. Mais elle lui a bien arrangé son cache-nez. Il a enfoncé son béret, a pris sa canne et il est parti. Au café, tous les anciens combattants étaient là. On a bu, pas la victoire, non. On a bu parce qu'on était vivants. On a bu au caporal, au sergent, au lieutenant qui était brave, à l'adjudant qui était une peau de vache, et on a bu à l'Artsmann Willerkopf, le vieil Armand. On a bu à Verdun, au chemin des Dames. Bref, quand mon grand-père a voulu se lever, il a été obligé d'attraper la table pour que la salle s'arrête de tourner. Il a mis son béret, son cache-nez, il a pris sa canne et il est parti en chantant la Madelon. La Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon. Le pont est large, il l'a passé sans problème. Sa canne a tinté sur la dalle de pierre au début du sentier. Il est monté. Bien sûr, sa canne ne faisait pas comme d'habitude « tin, tin, tin », mais plutôt « tong, tong, tong ». Le rythme était moins nerveux, mais il avançait. Il a passé le tournant où Rosalie et lui avaient semé la tante Philomène, le chaperon avec ses vieilles jambes. Il a tapé contre le rocher sur lequel était montée Rosalie pour l'embrasser la première fois. Ça l'a fait sourire et il a continué. D'un seul coup, il a glissé. Il s'est pris les pieds dans une racine ou je ne sais quoi encore et patatras, il est tombé, il a débarroulé. Et quand il a eu fini de rouler, à quatre pattes, il a cherché sa canne et son béret. Il s'est mis à genoux et s'est relevé doucement. « Crénom, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et où est-ce que je suis ?» Il a écouté le bruit du torrent, un peu assourdi par le brouillard, mais on l'entendait. Il lui a tourné le dos et il a tâté devant lui avec sa canne. Rien, il n'a rien senti. « Je suis au bord du ravin. Heureusement que je n'ai pas roulé plus loin. » Il a tâté derrière lui. Rien. Je dois être dans le champ du roger, sur le rocher qui avance sur le torrent. Me voilà beau. Prudence, prudence. Alors, doucement, il tâte à droite. et sa canne ne rencontre que le vide. Alors, il tâte à gauche, rien. Rien devant, rien derrière, rien sur tous les côtés. C'est un effondrement. C'est ça qui m'a fait tomber, la terre a tremblé, les rochers se sont effondrés. Je suis sur une colonne de pierre, comme sur une cheminée de fée. En pleine nuit encore, avec la bête qui rôde peut-être, qui va me sauter dessus. Je ne peux pas bouger. Mon Dieu, aidez-moi. Pendant ce temps, ma grand-mère, inquiète, réveille les voisins. Une colonne de secours se met en route, avec des lanternes, et une échelle pour servir de brancard. Et tous les 50 pas, un voisin crie « Louis ! Louis ! » Ils descendent lentement. « Louis ! Louis ! » Ils entendent une réponse. « Ici ! Ici ! » Ils avancent encore. Mon grand-père voit les lanternes. « Attention ! N'avancez plus ! Il y a eu un effondrement ! Faites attention ! Arrêtez-vous, nom de nom ! Arrêtez-vous ! Gare au précipice !» Alors, ma grand-mère et les voisins ont aperçu mon grand-père debout, au milieu d'un champ. Sa canne, brisée au milieu, ne touchait plus le sol. Et mon grand-père, pour lui, c'était le vide autour de lui.